Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de RDL sur le 103.5 et vous écoutez le Minimag. Un Minimag aujourd'hui entièrement consacré, une fois n'est pas coutume, à une proposition de loi visant à généraliser l'enseignement des histoires, des cultures et des langues régionales. Cette loi est proposée par le député de la première circonscription du Haut-Rhin. Il s'agit évidemment de Yves Emmendinger, ici présent. Bonjour Yves.
Bonjour.
Tout d'abord, je vais aussi te remercier d'avoir accepté cette invitation. C'est un jour un peu particulier. T'es rentré très tôt ou très tard, on va dire, aujourd'hui, ce matin, ici sur Colmar, puisque t'étais à l'Assemblée, évidemment, cette nuit. Et puis, avec l'épisode venteux que subit la France encore à l'heure actuelle, et puis surtout cette nuit, eh bien, les trains ont été un petit peu dérangés.
Ouais, mon arrivée à Colmar était un peu rocambolesque.
On peut dire ça. Alors, avant de passer à ton projet de loi, si tu le permets, on va revenir un petit peu à ce projet de loi qui a été débattu pendant 2 jours et qui s'est terminé cette nuit à 1h30, qui s'appelle Vigilance sanitaire, il me semble.
Oui.
Et donc, hier, tu as déposé un amendement qui avait pour objet de supprimer l'article 1er qui prévoit la prolongation jusqu'au 31 juillet 2022 de l'état d'urgence sanitaire actuellement fixé au 31 décembre 2021.
Oui, ça a été un débat pendant 2 jours qui s'est soldé par effectivement un vote cette nuit à 1h30. C'est pour ça que je reviens de Paris où j'ai pu tout juste sauter dans le train qui du coup a été un petit peu ralenti par les événements météorologiques. Le débat a été difficilement accepté par la majorité et d'ailleurs la loi a été votée à seulement 10 voix d'écart, ce qui prouve que les choses n'allaient pas de soi. Et ce qui n'allait pas de soi, c'est que effectivement cette loi propose d'enjamber les futures échéances électorales, présidentielles, législatives et de proroger l'état d'urgence et le pass sanitaire donc jusqu'au mois de juillet 2022. C'est ce qui pose un problème, c'est que ça permet pas au Parlement de jouer son rôle, qui est celui du contrôle de l'action du gouvernement, et ça revient finalement à donner les pleins pouvoirs à l'exécutif, c'est-à-dire au président de la République et au gouvernement, sans possibilité de contrôle. Et nous, ce qu'on défendait, c'était la mise en place au minimum d'une clause de revoyure pour que d'ici 2 mois, eh bien, selon la situation sanitaire du moment, eh bien, le gouvernement soit obligé de repasser devant le Parlement pour faire valider un certain nombre de choses, ce que n'a pas voulu la majorité. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, j'avais, avec d'autres collègues, déposé un amendement de suppression du premier article, mais également, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voté cette loi tout à l'heure, ce matin.
Il n'y a pas eu non plus de réponse à ta question quant au pass sanitaire dans les urnes pour les élections présidentielles.
Voilà, c'est une question qui se pose aussi et qui d'ailleurs poserait, le cas échéant, un problème juridique important. Est-ce que le gouvernement, j'ai interpellé le ministre de la Santé là-dessus hier soir, Monsieur Véran, en lui demandant s'ils envisageaient de rendre obligatoire le pass sanitaire dans les bureaux de vote, ce qui de fait exclurait un certain nombre de nos concitoyens du vote, ce qui, à mon avis, juridiquement d'ailleurs, ne pourrait pas se faire au final. Mais j'ai pas eu de réponse là-dessus.
On peut imaginer qu'éventuellement, il y aura un remboursement des tests juste pendant cette période, pendant ces 15 jours. Non, je ne sais pas.
Je pense honnêtement qu'ils ne pourront pas le faire parce que constitutionnellement, on ne peut pas empêcher quelqu'un, quelles que soient les raisons, d'aller voter. Mais au-delà de ça, ça en dit long sur l'état d'esprit qui règne aujourd'hui au sein de la majorité LREM, au sein du gouvernement, qui est continuer à vouloir régner sur nos libertés, nous priver d'un certain nombre de libertés, alors que évidemment, faut continuer à être vigilant, on est un peu sorti de la pandémie, mais il faut surtout veiller maintenant à ne pas y rentrer. Mais aujourd'hui, alors que 86% de nos concitoyens sont vaccinés, continuer à vouloir nous imposer des mesures qui réduisent nos libertés et de les proroger jusqu'au mois de juillet sans possibilité pour le Parlement de contrôler tout cela, ça pose un problème de démocratie.
Et ils ont aussi réussi, on en parlait un petit peu en off avant de prendre l'antenne, il y a un amendement qui est passé du gouvernement qui permet aux directeurs d'école et aux chefs d'établissement du second degré de connaître le statut vaccinal des élèves.
Alors ça, c'était la cerise sur le gâteau, ou plutôt la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que c'est un amendement défendu, déposé comme ça à la va-vite par le gouvernement, qui a été débattu à peu près, il était presque minuit, donc comme ça, un petit peu au dépoté, et qui est lourd de conséquences là encore, parce que ça va effectivement permettre aux chefs d'établissement, qu'ils ne le demandaient absolument pas d'ailleurs, de connaître la situation vaccinale des élèves. Ça pose un problème énorme du respect du secret médical, qui est quand même une protection importante aussi pour les concitoyens. Et là encore, on réduit les libertés publiques, on interfère dans la vie privée, et c'est ce qui pose un problème.
Je comprends bien. Bon, revenons à cette proposition de loi visant à généraliser l'enseignement des histoires, des cultures et des langues régionales. Cette proposition de loi fait suite à la loi dite MOLAC, promulguée le 21 mai 2021, relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. Loi pour laquelle tu as voté favorablement.
Oui.
Et cette loi, as-tu déclaré, est d'autant plus intéressante qu'elle engage l'État et les collectivités territoriales à participer à l'enseignement, à la diffusion et à la promotion de nos langues régionales. Cependant, pour toi, ce n'est pas suffisant. C'est ce que j'en déduis. D'où ce projet de loi qui généraliserait l'enseignement de l'histoire, de la culture et de la langue régionale dans le primaire et le secondaire.
Tout à fait. La loi MOLAC, ça a été un bon moment de vécu à l'Assemblée nationale. Et c'est un bel exemple de ce qu'on est capable de faire quand l'intérêt général est en jeu. Parce que, en l'occurrence, le député MOLAC, c'est un député qui vient d'un groupe qui est plutôt proche de la majorité et qui n'est pas du même groupe que moi. Mais avec d'autres collègues, ce qu'on a considéré, c'était cette avancée pour les langues régionales, et moi en tant que député alsacien, et également en tant que conseiller d'Alsace, la défense de notre langue régionale, de l'alsacien, la connaissance de l'allemand également, est très importante. Et donc moi, j'ai pas regardé l'étiquette du député qui a déposé cette proposition de loi, j'ai regardé l'intérêt. Et je me souviens très bien de ce moment-là, quand on l'a voté, c'était le 8 avril dernier, on s'est retrouvé un certain nombre de députés sur le parvis de l'Assemblée nationale. Il y a eu un vraiment bon moment de communion. On était très heureux. Et les Bretons chantaient en breton, les Corses en corse, et les quelques députés alsaciens qui étaient là, la plupart d'ailleurs tous les députés alsaciens qui étaient là, ont chanté en alsacien. C'était vraiment un magnifique moment. Mais la proposition de loi que j'ai déposée à l'Assemblée la semaine dernière, finalement, c'est la conséquence logique de la loi MOLAC. L'apprentissage des langues régionales, pour moi, c'est l'arbre. Mais l'arbre, il a besoin de racines pour être solide et pour grandir. Et donc, les racines, pour moi, c'est la connaissance de la culture, de l'histoire et des traditions de nos régions, et en l'occurrence chez nous, de l'Alsace. Mais c'est valable en Corse, c'est valable en Bretagne, c'est valable dans les autres régions françaises.
Alors on imagine que cette proposition de loi part d'un constat, aussi un constat fait par l'homme de terrain que tu es, attaché à ta région et à ta ville, et notamment le constat que l'alsacien est de moins en moins parlé, les nouvelles générations ne connaissent plus l'histoire et les traditions alsaciennes qui sont pourtant les bases de notre culture régionale.
Voilà, évidemment nous sommes français, on est fiers d'être français, et il ne s'agit pas de remplacer l'apprentissage de l'histoire de France, et il ne s'agit pas d'opposer les deux, mais... Et donc, sur cette base-là, il faut construire aussi le récit régional, à côté du récit national. En Alsace, on a une culture, on a une histoire qui n'est pas tout à fait, et pas exclusivement, l'histoire de France. C'est lié à notre propre histoire. Et donc, évidemment, à côté de cet apprentissage, il faut qu'on puisse connaître notre histoire. Nous sommes français, mais nous sommes aussi rhénans. On a cet avantage, et c'est une vraie richesse, c'est une vraie valeur ajoutée d'avoir cette double culture. Encore faut-il pouvoir la connaître, encore faut-il pouvoir la transmettre. Et c'est la raison pour laquelle je dépose cette proposition de loi qui vise à rendre obligatoire quelques heures, au secondaire comme au primaire, d'apprentissage de notre culture et de notre histoire régionale.
Alors quand on passe à l'exposé des motifs, il y a deux points. Le premier, c'est d'une histoire excluante à une histoire incluante, renforcée par des éléments d'histoire locale et régionale. Au-delà d'un projet de loi, c'est aussi la volonté de changer l'enseignement de l'histoire.
C'est important.
Enfin, ça passe par là, en tout cas.
Oui, parce que on voit bien aujourd'hui la connaissance de l'histoire de son pays est de moins en moins répandue. Et c'est un problème, parce que un peuple sans passé est également un peuple sans avenir. Et il faut impérativement mettre l'accent là-dessus parce que on vient de quelque part, on vit quelque part, et si on veut créer cette notion de d'appartenance, ben encore faut-il savoir à quoi on appartient. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Et encore une fois, en Alsace, on a des particularités, on a qui sont des forces. Je prendrai un exemple puisqu'on est bientôt le 11 novembre sur nos monuments aux morts. Il n'y a pas marqué « mort pour la France » comme c'est le cas ailleurs en France. Il y a marqué « à nos morts », ce qui est issu directement de notre histoire, puisqu'il y a des soldats qui ont combattu avec d'autres uniformes parce que c'était des périodes où l'Alsace était allemande et puis elle est redevenue française. Bon, mais tout ça, peu de gens le savent et les gens le savent de moins en moins, donc il faut absolument le faire savoir et c'est le rôle évidemment des parents dans l'éducation de leurs enfants, mais c'est le rôle de l'instruction, donc aussi de l'école.
Alors on note, quand on se promène un peu en France, évidemment, il y a des disparités, il y a des petites guéguerres. Ici, c'est tout simplement, il y a le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Souvent, voilà, alors ça, c'est souvent bon enfant, mais il existe toujours quand même un petit antagonisme comme ça. Moi, je l'ai connu aussi dans le sud-ouest, entre Toulouse et Bordeaux. Donc ce sont des antagonismes qui viennent de l'histoire aussi. Et finalement, plus personne ne sait pourquoi. J'ai l'impression.
Voilà, d'où l'intérêt effectivement de l'apprendre et d'où le rôle de l'école. Moi j'ai toujours du mal, il faut faire attention, en plus c'est d'actualité, avec les propos tenus par le président de la République par rapport à ce qui s'est aux événements d'Algérie. J'ai toujours du mal avec le jugement de l'histoire par le présent. Malheureusement, dans un pays, c'est pareil dans une région, l'histoire, elle forme un tout. Et alors, il y a des moments de joie, il y a des moments de peine, il y a des moments atroces, il y a des moments de communion. L'histoire, c'est un tout. Et il faut l'accepter. Même si, évidemment, là encore, la connaissance de cette histoire permet aussi de tirer des conclusions, d'analyser ce qui s'est passé et aussi l'objectif du devoir de mémoire, qui est d'ailleurs aussi très important et qui est aujourd'hui beaucoup diffusé par les associations patriotiques, eh bien c'est aussi pour ne pas répéter les mêmes erreurs.
Absolument, ça c'est fondamental. Mais est-ce que le fait de mieux connaître l'histoire, autant nationale que régionale, pourrait faire que le peuple soit effectivement plus uni ?
Je pense, d'ailleurs pour revenir sur cette histoire de Racine, je dis ça sous forme de boutade, mais je pense que ça explique bien les choses. Aujourd'hui, à la limite, l'espéranto, la langue mondiale, aujourd'hui, ce qu'on peut déplorer, parce que ça a longtemps été le français, c'est l'anglais. Donc à la limite, on n'a qu'à tous apprendre l'anglais, et on n'a plus besoin d'apprendre le français, on n'a plus besoin d'apprendre l'espagnol, on n'a plus besoin d'apprendre l'allemand, on apprend tous l'anglais et on se comprend dans le monde entier. Sauf que, évidemment, on continue à apprendre en France le français parce que c'est justement notre histoire, c'est notre culture. Et ben c'est pareil pour les langues régionales. Si on veut vraiment avoir un intérêt à apprendre la langue régionale, et c'est indispensable, encore une fois, parce que c'est notre ADN d'Alsacien, parce que c'est notre culture, notre histoire, et ben il faut connaître cette histoire et cette culture.
Alors, sinon, pour concrètement, comment vois-tu la mise en place de cette loi si elle est votée ?
Alors, c'est un peu le parcours du combattant pour faire voter une loi, puisque voilà, je l'ai déposée. J'ai d'ailleurs fait signer cette loi. Je l'ai envoyée à tous mes collègues. Là encore, sans distinction d'étiquette partisane, parce que je pense que encore une fois, ce sont des sujets qui doivent transcender les clivages. Et à un moment donné, il faut être pragmatique. Et je pense que d'ailleurs, en règle générale, si dans le pays on mettait plus d'énergie et plus de temps à régler des problèmes qu'à se quereller sur des étiquettes ou sur des postures, je pense qu'on se porterait tous mieux. Donc j'ai envoyé ma proposition de loi à l'ensemble de mes collègues. J'ai recueilli pas mal de signatures. On parlait d'ailleurs du député Molac, il l'a signé. Mmh. Tous mes collègues, en tout cas les Républicains alsaciens, ont voté ma proposition de loi. Donc je suis en train de créer d'abord un soutien généralisé. Et puis maintenant, je vais me battre pour qu'elle soit discutée en commission, puis inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée. et ensuite voter dans l'hémicycle. Donc c'est le parcours qu'elle va le faire, qu'elle va faire cette loi, cette proposition.
Tu disais aussi que dans les années 80, le recteur de l'Académie de Strasbourg, monsieur Pierre Deillon, avait créé une option culturelle, langue et culture régionale, assortie d'une épreuve facultative au baccalauréat. Enfin, alors que des générations entières d'Alsaciens avaient été formés dans l'ignorance totale de leur histoire et culture régionale, les jeunes Alsaciens avaient la possibilité d'apprendre l'histoire de leur territoire, de leurs traditions et de leurs aînés. Contrairement à d'autres régions, il ne s'agissait pas d'un enseignement de la langue régionale, breton, corse, occitan, basque, etc., mais d'un enseignement essentiellement en français, de la culture régionale. Cependant, pour les élèves bénéficiant d'un enseignement de langue régionale, l'option était enseignée dans cette langue. C'est une option qui semblait intéressée, puisqu'il y avait à peu près 5000 collégiens et lycéens et quelques 1200 présentés l'option au baccalauréat. Et finalement, ça n'existe plus sous cette forme-là, en tout cas.
Non. Alors, d'abord, il y avait un côté facultatif. Et moi, ma proposition de loi vise à rendre l'enseignement régional obligatoire, hein, quelques heures aux côtés des cours d'histoire-géographie traditionnels. Et d'autre part, effectivement, cette option-là est quasiment tombée en désuétude. C'est dommage. Donc, l'un des objectifs de ma proposition de loi, c'est justement de faire revivre tout ça.
Dans l'article 1 de cette proposition de loi, il y a donc dans les académies où il n'existe pas d'enseignement de langue régionale, l'enseignement de la langue et de la culture locale ou régionale est dispensé en langue française, ça c'est une précision. Dans les académies où il existe un enseignement de langue régionale, l'enseignement de la langue et de la culture locale ou régionale se fait en bilingue, en langue française et en langue régionale. C'est important cette précision.
Ça prouve bien d'ailleurs que ma proposition de loi, évidemment, ne concerne pas que l'Alsace, et d'ailleurs ne concerne pas que les régions qui disposent d'une langue régionale. Mmh. Ce n'est pas le cas dans toutes les régions en France. Hein. Vous avez l'ensemble de la France, il n'y a pas de langue particulière. Mais il y a quand même une histoire qui est propre. La Corrèze, la Lozère ont leur propre histoire qui parfois est différente de l'histoire générale française, avec des particularismes locaux, avec des traditions locales qui sont fortes. Donc ça concerne tout le monde. Mais effectivement, dans les régions qui dispose, comme c'est le cas chez nous, d'une langue régionale, c'est l'occasion justement de donner plus de force, pour le coup, à la langue. Et donc de faire d'une pierre deux coups, de diffuser la langue et la culture et l'histoire qui vont avec.
Alors l'article 2, lui, justement, se penche sur les moyens à mettre en œuvre, et notamment c'est la formation des enseignants et l'élaboration des contenus pédagogiques.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que, d'ailleurs, c'est pareil pour l'apprentissage de la langue régionale, l'allemand. Aujourd'hui, on le voit bien, il y a des difficultés de recruter des enseignants. Il y a une belle initiative qui est prise par l'association Eltern, qui est de lancer un appel à recrutement. D'ailleurs, ils ont recueilli pas mal de candidatures. Tout ça prouve qu'il y a des possibilités. Parce que vous savez, quand vous savez parler l'allemand ou l'alsacien, vous pouvez très bien être amené à intervenir dans les écoles. Peu de gens le savent. Et c'est un petit peu l'initiative qu'a prise l'association Eltern. Donc, il faut le faire savoir. Parce que c'est vrai qu'ici ou là, il y a une pénurie. Il y a aussi beaucoup d'enseignants qui savent parler l'allemand et qui préfèrent aller travailler en Allemagne ou en Suisse, parfois parce qu'il y a des disparités de salaire.
Bien sûr. Quant à l'article 3, lui, il parle du financement, puisque évidemment, ça aura un coût.
Oui, ça aura un coût, encore que, voilà, le coût, dans l'idéal, c'est de trouver d'avoir le même enseignant qui soit capable, évidemment, d'enseigner l'histoire, bon, ça c'est son rôle, mais qui ait suffisamment de connaissances locales pour rajouter un volet local. Et sinon, effectivement, il faudra trouver des intervenants extérieurs, c'est là où ça peut représenter un coût, mais dans le coût total du budget de l'éducation nationale, ça représentera vraiment une très 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 faible somme.
Bien sûr. Donc cette proposition de loi sera débattue à partir de quand ?
Alors ça, je ne maîtrise pas totalement le calendrier. C'est vrai aussi que moi, ça fait un an que je suis élu à l'Assemblée nationale, que le mandat est court puisque les élections législatives auront lieu au mois de juin 2022. Donc, je vais tout faire pour que ça puisse encore être mis à l'ordre du jour de la session de ce mandat-là. Mais si c'est pas le cas, évidemment, les jalons auront été posés. C'est en train de créer aussi une mobilisation de l'ensemble des intervenants. D'ailleurs, je salue Pierre Klein, qui est le président de l'Institut Bilinguisme. C'est lui qui m'a aidé à rédiger cette proposition de loi. Et donc cette mobilisation, cette émulation servira au pire lors du renouvellement, où là, effectivement, ça pourrait être plus rapidement opérationnel pour être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
En tout cas, nous suivrons donc l'évolution de cette proposition de loi. Je te remercie encore beaucoup d'avoir pris du temps sur toi, puisque en plus t'as pas dormi et puis que ta journée.
Ça s'entend pas trop, j'espère.
Non, pas du tout. En tout cas, ta journée est loin d'être finie en plus. Ouais. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présent.
Avec plaisir.
Et puis, on se retrouve pour une autre actualité.
À très bientôt.
À très bientôt.
Merci.
Merci à toi.